L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 24 décembre 2013. En cette veille de Noël, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, se fend d'une signature au bas d'un document pour le moins inhabituel. Il s'agit d'un acte royal de clémence. Elle annonce ainsi réhabiliter un certain Alan Turing, mort en 1954. Son unique faute ? Préférer les hommes aux femmes. Nous sommes le 24 décembre 2013, il est à présent 18h, quand la reine Elisabeth II prend la parole et annonce la grâce d'Alan Turing. Et c'est l'heure H de mon histoire. Alan Turing est mort voilà plus de 59 ans. Quand on sait que la grâce royale ne s'est exercée que 4 fois depuis 1945, l'acte n'est pas anodin. Alan Turing, qui avait disparu dans les oubliettes de l'histoire, ne l'est pas non plus anodin. On le considère comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, rien de moins. Et vous allez comprendre pourquoi l'histoire britannique ne s'enorgueillit pas vraiment de la condamnation et de la déchéance de l'un de ses plus brillants esprits, pour la simple raison qu'il était homosexuel. Une orientation sexuelle jugée illégale au Royaume-Uni jusqu'en 1967. Réhabiliter la mémoire d'Alan Turing, c'est d'abord rappeler qu'il est le créateur de l'ordinateur moderne et aussi un héros de la Deuxième Guerre mondiale qui a sans doute épargné de très nombreuses vies et raccourci la guerre d'au moins 2 années. Pour bien comprendre la portée universelle de cet homme issu de la petite bourgeoisie londonienne, il faut remonter au début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Atlantique Nord est soumis à la terreur des sous-marins allemands de l'amiral de Nitz. Les fameux U-boats imposent un blocus maritime impitoyable à la Grande-Bretagne. La population britannique a faim. Et les convois alimentaires par bateau en provenance des États-Unis se font régulièrement torpiller par des hordes de loups gris, l'autre nom des U-boats, qui infestent les eaux froides de l'Atlantique Nord. C'est que Hitler, son état-major et toute l'industrie militaire allemande a construit sa stratégie guerrière sur la Blitzkrieg, la guerre éclair, une guerre de mouvement rapide, coordonnée. La clé de voûte de cette Blitzkrieg, une petite machine d'une douzaine de kilos, une sorte de machine à écrire d'un genre particulier. Elle porte le nom fort à propos d'Enigma, car elle permet aux forces du Troisième Reich de crypter leurs communications de façon impénétrable. Peu importe que ces messages soient captés par les Alliés, ces derniers ne peuvent de toute façon pas les décoder. Ces messages consistent en une succession de lettres qui ne veulent rien dire pour celui qui ne possède pas la clé de chiffrement. Les Alliés ne peuvent que constater leur impuissance à trouver le moyen de briser le code d'Enigma. Et pour cause. Enigma, dans sa version la plus élaborée, le modèle M-4, utilisé par les U-boats notamment, propose pas moins de 159 milliards de combinaisons différentes pour coder un seul message. Cette machine fonctionne grâce à une série de cylindres qui tournent sur eux-mêmes chaque fois que l'opérateur tape une lettre. Si vous tapez A, la machine le code comme un M, et ceci sans jamais la moindre récurrence. Donc un autre A pourrait donner un H. Ainsi, les phrases qui en ressortent sont parfaitement incompréhensibles. De plus, la clé qui permettrait de décoder les messages change toutes les 24 heures. Il s'agit donc de trouver une aiguille dans une très, très, très grande meule de foin. Mission impossible, allez-vous me dire ? Bien non, pas forcément. Mais il faudrait quelques décennies à une équipe d'une centaine de personnes travaillant à plein temps pour espérer, arriver à bout de toutes les combinaisons possibles, et ce, uniquement pour un seul message codé. Même si elle a résisté au bombardement incessant de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, l'Angleterre est dans une très mauvaise posture en ce début de Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler et son armée ont défait presque toutes les armées européennes, depuis la Pologne, en septembre 1939, jusqu'à la Grèce, en avril 1941. Le seul pays à l'ouest qui résiste encore à l'assaut des troupes allemandes est l'Angleterre. Mais elle en paye le prix fort. Un déluge de bombes s'est abattu sur Londres et le blocus maritime se resserre autour de l'île. Ce que les Allemands ignorent, c'est que de l'autre côté de la Manche, à Bletchley Park, plus précisément à 80 km de Londres, s'est installé en toute discrétion le centre de décryptage de l'armée britannique et qu'un jeune mathématicien anglais, au regard facétieux et au comportement parfois déconcertant, travaille d'arrache-pied au décryptage de la machine Enigma. Il s'appelle Alan Turing. Fraîchement promu de l'université de Cambridge, il s'est spécialisé notamment dans la cryptographie. En 1936, à peine âgé de 24 ans, il a déjà publié un article dans les annales de la très sérieuse Société mathématique de Londres. Son article s'appelle « Uncomputable Numbers ». Il y répond à la question posée par un autre scientifique allemand, celui-là. Étrange coïncidence. La question est la suivante. Est-il possible de démontrer si un énoncé est démontrable ou non avec une machine ? Autrement dit, une machine peut-elle tout calculer ? En réponse à ce problème, Alan Turing décrit une machine capable de calculer toute seule, une machine universelle, capable de faire le même travail que n'importe quelle autre machine, pourvu qu'on lui donne des instructions. Il ne le sait peut-être pas encore, mais sa machine va révolutionner le destin de la guerre et plus largement, celui de l'humanité tout entière. La machine de Turing, ainsi qu'elle sera baptisée, vous l'avez compris, c'est le premier ordinateur. Même s'il n'est encore à l'époque qu'un concept théorique qui ne tient que sur le papier. Alan Turing est un jeune mathématicien dont le cerveau fonctionne à une vitesse hors du commun. Comme beaucoup de génies, il possède une imagination extrêmement fertile qui lui permet d'établir des ponts entre différentes disciplines scientifiques. Un jeune homme brillant donc, mais au caractère, disons, particulier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité dans le monde du renseignement militaire britannique où il a été recruté et intégré à une équipe de cryptographes et de scientifiques de tout poil chargés de briser les codes de la fameuse machine Enigma. Sur le site du manoir de Bletchley Park, on croise parfois Alan Turing sur son vélo avec un masque à gaz sur la tête pour, dit-il, combattre le rhume des foins. Introverti et à la fois brusque, avec une sorte d'autoritarisme vis-à-vis de ceux qui n'auraient pas sa rapidité d'esprit, Alan n'est pas toujours à l'aise dans les rapports sociaux. Certains le voient comme une sorte d'autiste. C'est que sa rapidité d'esprit est telle qu'il ne finit jamais vraiment ses phrases, comme si sa parole était incapable de transmettre cette fusion intellectuelle permanente. Ce comportement qualifié d'étrange et fantasque par ses supérieurs est peut-être aussi dû à un secret qu'il ne cache pas vraiment. Alan préfère les hommes aux femmes. Il sait que cette orientation sexuelle, qualifiée à l'époque de criminelle, lui vaudrait la prison dans cette société anglaise encore pétrie d'ultra-conservatisme. Ce qui apparaît à notre époque actuelle comme une liberté fondamentale, enfin, du moins dans certains pays, va pourtant provoquer sa perte.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous parle d'Alan Turing, un mathématicien de génie au destin tragique, un héros britannique oublié de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour bien comprendre la portée d'Alan Turing, remontons quelques années avant le début de la guerre. Dès son arrivée à Bletchley Park au service du chiffre en 1938, il comprend tout de suite qu'aucune intelligence humaine ne viendra jamais à bout d'Enigma. Le niveau de probabilité de cette machine diabolique est tel que tous les efforts des meilleurs cryptanalystes au monde resteront vains. Pour percer Enigma, c'est simple. Il faut lui opposer une autre machine d'une puissance de calcul encore inédite. Cette machine doit être capable de résoudre les milliards de combinaisons en quelques heures. Alan Turing se fait fort de la construire. Des projets similaires ont déjà été entrepris en Pologne, avec une portée très limitée, mais surtout, les machines n'étaient pas programmables. Génial, prophétique. Les mots ne suffiront pas au monde scientifique pour décrire l'apport de Turing au monde numérique dans lequel nous vivons. Et ça, ce sera des décennies plus tard. Pour l'heure, le caractère indépendant et parfois qualifié de prétentieux d'Alan Turing le marginalise vis-à-vis de ses supérieurs et d'autres scientifiques. Enfin, scientifique au sens large. Disons plutôt un mélange de toutes sortes de génies comme un champion d'échecs, un spécialiste des mots croisés. Le service du chiffre a mobilisé toutes les ressources intellectuelles pour décrypter les communications allemandes. Et quand Alan Turing demande 10 000 livres pour pouvoir construire une machine, son supérieur hiérarchique lui rit au nez. « Non mais pour qui se prend-il, ce jeune présomptueux ?» Alors Alan tient bon, parce qu'il sait qu'il a raison. Et si lui et d'autres scientifiques ne sont pas entendus par leur hiérarchie directe, il suffit d'écrire au Premier ministre, un certain Winston Churchill. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Son supérieur, le commandant Duniston, le laisse faire. Ah, qu'il l'écrive, sa lettre. Personne ne lui répondra jamais. Dans cette lettre, Alan Turing fait état du manque de moyens humains et matériels auxquels son équipe est confrontée. Et contre toute attente, la réponse ne se fait pas attendre. Quelques jours plus tard, Alan Turing reçoit l'argent. En plus, il est nommé à la tête de son équipe. Winston Churchill sait ce qu'il se passe dans le plus grand secret à Bletchley Park, et plus précisément dans le préfabriqué numéro 8, où officie Alan Turing. Le décodage d'Enigma représente l'un des rares espoirs de voir l'Angleterre infléchir le cours de la guerre contre l'Allemagne. L'importance de ce projet de décryptage est telle qu'il porte le nom de code Ultra, plus confidentiel encore que le classique Top Secret. Seule une poignée de décideurs britanniques sont au courant de ce qui se passe à Bletchley Park. Ces informations ne seront en partie dévoilées qu'à partir des années 1990 et encore. Elles le seront au compte-gouttes. Turing a désormais une équipe triée sur le volet et surtout, il peut construire sa machine, qui sera baptisée « Bombe de Turing » en hommage aux bombes de décryptage mises au point par des scientifiques polonais avant la guerre. Ceux-ci étaient déjà parvenus, grâce à ces bombes, à décoder certains messages nazis, mais uniquement grâce aux codes trouvés dans des documents interceptés par leur service de renseignement. Seulement, à partir de 1942, les Allemands ajoutent plusieurs rotors à Enigma. Le nombre de combinaisons atteint désormais les 159 milliards de milliards. C'est désormais le trou noir pour le service de décryptage britannique. Car si les cryptographes étaient parvenus à décoder certains messages, c'était bien chaque fois grâce à des documents interceptés par la résistance. Pour briser Enigma définitivement, Turing sait qu'il ne doit pas trouver un code ou une clé de chiffrement, non. Il doit percer le cœur du fonctionnement de la machine et donc trouver un moyen de tester les milliards de possibilités qu'elle offre, et ceci en moins de 24 heures, car toutes les 24 heures, les nazis changent la clé de chiffrement. Et au début de l'année 1942, il y a urgence à trouver le moyen de briser Enigma, car depuis que les nazis ont sorti leur nouveau modèle, l'Enigma 4, le tonnage coulé par la Kriegsmarine dans l'Atlantique est passé de 600 000 à 2 600 000 au cours de l'année 1942. Dans le préfabriqué numéro 8, installé dans le parc du manoir de Bletchley Park, Alan Turing n'a pas gaspillé les 10 000 livres débloqués par Winston Churchill. La bombe est construite selon ses instructions en un temps record. Cette bombe n'a rien d'une arme de destruction. Non, non, non. Elle ressemble plutôt à un immense frigo ou encore à une sorte d'armoire métallique de 2,50 m de hauteur sur 4 m de large. La seule référence à la bombe est le bruit de tic-tac que fait cette énorme machine. Des dizaines de bobines tournent sur elles-mêmes, comme des cadrans de montres, pour passer en revue les milliards de combinaisons possibles qu'offre Enigma. Rajoutez à cela quelques kilomètres de câbles, et vous avez en face de vous le premier ordinateur. Pour faire fonctionner toute cette mécanique, il faut lui donner des instructions. Et c'est là que réside le génie du mathématicien. Il est le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'algorithme, le principe mathématique qui fait fonctionner nos ordinateurs, c'est-à-dire la possibilité d'orienter et de décomposer les recherches de la machine. En d'autres termes, il peut la programmer. Sa bombe agit comme si 10 000 cerveaux fonctionnaient en même temps. Sa bombe fonctionne, oui, mais trop lentement. Chaque jour à minuit, la clé change et tout est à recommencer. Comment alors accélérer le processus? C'est simple, en réduisant le nombre de possibilités de chiffrage. Oui, mais encore, en donnant quelques indices supplémentaires à la machine. Bon, dit comme ça, ça a l'air très simple. Mais il faut pouvoir encore l'appliquer comme une théorie mathématique fiable. Sur le site de Bletchley Park, une armée de secrétaires est chargée de prendre note de tous les messages émis par les forces de l'Axe. Parfois, elle capte des messages qui semblent commencer de la même façon. C'est une faille qu'il faut exploiter. Par quoi pourraient bien commencer tous ces messages? Eh bien, par des choses aussi triviales que « Heil Hitler » ou « Mein Kommandant » ou encore, dans les bulletins météo que reçoivent les navires allemands, il doit bien y avoir le mot « mer » ou le mot « pluie » et puis certainement aussi « fin de transmission ». Il suffit dès lors de donner à la bombe ces informations et ainsi de réduire le nombre de possibilités. Oui, très bien. Mais cela, il faut encore pouvoir le programmer dans un langage qui ne s'appelle pas encore l'informatique, pour qu'une machine puisse résoudre cette succession de problèmes 100 fois, 1000 fois plus vite qu'un humain. Dans le préfabriqué numéro 8 de Bletchley Park, Alan Turing ne dort que très peu. Les traits tirés, il peaufine les réglages de sa bombe, chaque jour un peu plus. Ses doigts sont rongés jusqu'au sang. En temps normal, cette manie ne se voit pas trop, mais à présent, elle ferait plutôt peur. Le MIS, le service de renseignement anglais, ancêtre du célèbre MI6, veut des résultats probants et rapides. Ce qu'il se passe à Bletchley Park est axé du code ULTRA, vous le savez. Entendez par là qu'aucun membre de cette élite de mathématiciens et de cryptographes ne peut et ne pourra jamais parler de ce qui se passe et de ce qui s'est passé sur ce site aménagé en urgence au début de la guerre par le bureau du chiffre anglais. Winston Churchill espère avoir misé sur le bon cheval en finançant Turing et sa bombe. Peut-être, le jeune homme est-il un génie? En théorie, oui, peut-être, mais ici on est en guerre. Et il faut passer de la théorie à la pratique et décoder les messages indéchiffrables que les forces de l'Axe se transmettent en toute impunité. L'équipe choisie minutieusement par Turing travaille d'arrache-pied sur la bombe. Les tic-tac de cette étrange machine tournent jour et nuit pour s'arrêter quand elle a fini de calculer, moment où l'une de ses secrétaires vient prendre note des résultats. Alan, qui ne fait rien comme les autres, a intégré une femme dans son équipe. Et ce n'est pas une secrétaire, non. C'est une mathématicienne. Chose rare à l'époque où le rôle de la femme se maintenait à celui de secrétaire. C'est qu'Alan n'est pas indifférent à l'intelligence de Joan Clark, qu'il considère même comme intellectuellement supérieure à lui. En 1941, il lui propose même de se fiancer. La jeune femme accepte. Ses parents voient d'un très mauvais œil qu'elle travaille à Bletchley Park dans une équipe d'hommes, d'autant qu'elle ne raconte rien de ce qu'il s'y passe. Pour être tout à fait honnête, dans cette union, Alan voit l'opportunité de s'acheter une forme de tranquillité sociale. Quand on est homosexuel en Grande-Bretagne à l'époque, il est préférable de vivre caché derrière une institution respectable comme celle du mariage. Il sait ce que la normalité aux yeux des autres signifie et surtout quel droit elle leur donne, celui de briser ce qu'ils considèrent comme différent. Et Alan Turing sait ce que « différent » veut dire. Depuis qu'il est enfant, il a toujours subi la violence, pour la simple raison qu'il est différent, à beaucoup de points de vue. Joan est une femme brillante, et elle sait déjà qu'ils formeront un couple de façade. Cette imposture ne la gêne pas. D'autant qu'elle aime Alan d'un amour non charnel, sans doute, mais sincère. Une complicité affective et intellectuelle qui les unira jusqu'à la fin. Ce mariage permettra aussi à la jeune femme de mettre fin au harcèlement qu'elle subit de la part de ses parents. Eux, qui aimeraient la voir se marier et rentrer dans le rang. Déjà que leur fille pratique les mathématiques, un métier normalement dévolu aux hommes. Les deux scientifiques se fiancent, et puis, contre toute attente, Alan est pris de remords. Il rompt les fiançailles lorsqu'il annonce à Joan son homosexualité, d'un air grave, désolé. Joan sourit. Elle le savait depuis le premier jour où elle l'a rencontré. Si elle est déçue, c'est surtout parce que ses parents vont recommencer à vouloir la marier à tout prix. Elle qui n'en a pas envie. Ce mariage avec Alan représentait un alibi parfait pour pouvoir continuer la recherche scientifique qui la passionne plus que le destin de mère au foyer. Cette rupture de fiançailles laisse tout le monde interloqué au sein de Bletchley Park. Alan et Joan sont inséparables. Les mathématiques les unissent envers et contre tout. Alors pourquoi briser leurs fiançailles? Mais bon, après tout, ça ne regarde qu'eux. Cela relève de la sphère privée. Et de toute façon, on n'a pas le temps de se perdre en ragots et en suspicions. Il y a une guerre à gagner. Et c'est bien grâce à Joan et au reste de son équipe qu'Alan peaufine depuis des mois les réglages de sa bombe, la fameuse bombe de Turing. Cette étrange machine, censée décrypter Enigma, a envahi tout l'espace du préfabriqué numéro 8 de Bletchley Park. Le tic-tac des dizaines de rotors leur rappelle que le temps passe, impitoyable, inexorablement. Chaque minute, chaque seconde, pendant lesquelles des vies sont fauchées par une guerre qui a embrasé la planète entière. Une guerre où les morts se comptent déjà par millions. Et parmi les scientifiques et les mathématiciens qui connaissent l'orientation sexuelle de Turing, on cache mal son inquiétude suite à cette rupture de fiançailles. Si la hiérarchie militaire découvrait que Alan est homosexuel, ils le vireront immédiatement et nous perdrons la guerre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous nous penchons sur le destin brisé d'Alan Turing, mathématicien de génie et père de l'informatique moderne. Un beau matin de printemps 1942, le responsable du MIS, l'ancêtre du MI6, un certain Steward Menzies, se départit de son flegme typiquement britannique quand il annonce vouloir être reçu en privé par le premier ministre britannique, Winston Churchill. Sa main tremble, ce qui ne lui arrive jamais. Lui, le héros de la Première Guerre mondiale, lui en qui Winston Churchill a une confiance absolue. L'enveloppe scellée qu'il tient en main contient une chose à laquelle il a encore du mal à croire. Churchill le reçoit immédiatement. Le vieux lion en peignoir sait que Menzies ne viendrait pas le déranger chez lui à 6h du matin pour lui parler de la pluie qui s'est remise à tomber sur Londres, dévastée par les bombes allemandes. De son œil rusé, il devine que l'heure est grave. Menzies est l'archétype de l'agent du renseignement britannique, d'un flegme en principe imperturbable. Et là, le responsable du MIS lui tend une enveloppe de sa main tremblante, sans avoir encore prononcé un mot. Churchill parcourt les premières lignes des deux pages de texte qu'il tient de ses doigts jaunis par les cigares qu'il affectionne tant. Il n'a pas besoin d'en lire plus pour comprendre ce qu'il a entre les mains. Il s'agit d'un message transmis par le QG de la Kriegsmarine vers un U-boat. Coordonnées, distance, ordre de se regrouper avec trois autres U-boats. Il s'agit d'un ordre d'attaque sur une escadre de cargo américain repérée par la Luftwaffe et en route vers le nord de l'Écosse. Tout y est, tout est juste. L'opérateur allemand s'est même fendu d'un « Heil Hitler » en fin de transmission. Il s'agit d'un message codé par une « Enigma 4 », les plus difficiles à décoder. Le message date de la veille. Winston Churchill sourit. Il tient entre ses mains les premiers résultats de l'opération Ultra. Depuis quelques jours, la bombe de Turing a donc décodé plusieurs messages de la Kriegsmarine, les plus difficiles à décrypter en moins de 24 heures. Cet Olybrius d'Alan Turing a donc réussi l'impossible, songe le vieux lion. Voilà 10 000 livres d'argent public qui auront été utilisés à bon escient. Ces messages de l'ennemi sont là entre ses mains, comme s'ils lui avaient été adressés personnellement. Ce matin de 1942, dont nous ne connaîtrons jamais la date précise, car elle n'a jamais été divulguée, Winston Churchill sait que la victoire va changer de camp. Menzies prononce ses premiers mots et explique d'un ton laconique que la bombe de Turing peut sans doute gagner encore quelques heures dans le décryptage des énigmes. En effet, plusieurs autres bombes du même modèle sont en cours de construction. À l'époque où se déroulent les faits, plus de 10 000 personnes travaillent sur le site de Bletchley Park sans que les nazis ne se doutent de rien. Si les bombes de Turing vont bientôt pouvoir décoder l'ensemble des communications des forces de l'Axe, c'est grâce aussi à tous ces mathématiciens, ingénieurs, cryptographes et secrétaires dont l'histoire ne parlera jamais. Car je vous le rappelle, cet épisode fut frappé du sceau du secret le plus absolu. Ce qui a changé la donne, c'est la théorie de la calculabilité que Turing avait déjà démontrée. C'est elle qui a permis de concevoir une machine, programmable grâce à ce que furent les premiers algorithmes. Alan Turing a même prouvé qu'une machine pouvait ne jamais s'arrêter de calculer. Il a ainsi posé les limites de la calculabilité, une donnée essentielle face à laquelle les informaticiens actuels reste toujours confronté. Winston Churchill dira à propos de Bletchley Park, je cite, « Ces poules pondent des œufs d'or et ne caquettent jamais. » Et les poules aux œufs d'or, entendez les bombes de Turing, bien disciplinées, n'en finissent pas de pondre, toujours plus vite. Turing améliore encore les performances de sa bombe, en l'alimentant avec les données collectées par les autres services de cryptographie. Le nombre de messages décryptés chaque jour ne fait qu'augmenter. Il ne faut bientôt plus qu'une heure aux Alliés pour connaître l'ensemble des mouvements de l'armée allemande. Face à une telle masse d'informations, le bureau du chiffre construit même les premiers disques durs en collectant des renseignements sur des fiches perforées qui peuvent être ressorties à tout moment lorsque le même nom ressurgit dans un message. Le succès de l'opération Ultra ne sera jamais connu pendant la guerre. Dès les premiers résultats probants de sa bombe, Turing sait que garder ce secret va impliquer des choix humains difficiles. Il ne faut surtout pas que les Allemands apprennent que leur précieuse Enigma a été mise en échec par une autre machine, plusieurs milliards de fois plus puissante qu'elle. Non, au contraire, il faut donner le change aux Allemands. Il faut que les attaques des contre-torpilleurs alliés sur les U-boats n'aient pas l'air miraculeuses, non! Il faut d'abord envoyer des avions en reconnaissance pour donner aux Allemands un scénario plausible à ces attaques de plus en plus précises, leur faire croire qu'il y a des taupes infiltrées dans le Troisième Reich. Et puis, il faudra encore sacrifier beaucoup de vies, car il leur faut faire des choix pour maintenir le secret. Les Allemands doivent obtenir d'autres victoires. De nombreux soldats et civils mourront encore. Le choix et les stratégies, Alan Turing les laisse aux décideurs et aux militaires. Il n'aime pas les honneurs. Et il a toujours détesté jouer le rôle de chef. Celui qui n'estime même pas être un héros de la Deuxième Guerre mondiale ne le sait pas encore, mais son nom et sa photo orneront un jour les billets de 50 livres britanniques. Elisabeth II, qui n'a que 15 ans, en cette année 1942, lui rendra même les honneurs nationaux, un jour lointain de 2013, quand les machines de Turing seront devenues ce qu'il avait prophétisé. Des ordinateurs extrêmement puissants, qui changeront le cours de l'humanité. La vision du monde d'Alan Turing est résolument pacifiste. La violence reste une notion abjecte, qui le laisse pantois face à ceux qui la pratiquent. Le vrai sens de la vie, c'est ce qu'il appelle le travail, entendez, la recherche. Les mathématiques logiques sont un monde abstrait dans lequel il voyage de découverte en découverte. Ce sont elles qui, dès l'enfance, ont scellé son destin. Cela a commencé à la très stricte Sherborne Grammar School, où Alan n'était qu'un élève classé parmi les plus médiocres. Ses professeurs le décrivent comme brouillon, maladroit et peu sociable. Il n'y a que l'algèbre qui trouve de l'intérêt à ses yeux. Et comble du scandale, il pratique les mathématiques au cours de religion. Les suites numériques qu'il étudie pendant l'étude du divin provoquent l'indignation. S'il ne redouble pas, c'est grâce à l'intervention de son professeur de mathématiques qui n'a jamais vu un cerveau aussi bien fait pour les sciences. C'est que, à 16 ans, Alan a déjà compris que les travaux d'Einstein remettent en cause les axiomes d'Euclide et les lois de la mécanique céleste de Galilée et de Newton. Rien que ça. Un génie qui n'a pas sa place dans cet internat, où l'on forme les futurs gentlemen aux disciplines classiques comme la littérature, l'art et la culture physique. Pourtant, un jour de 1927, il y fait une rencontre qui changera le cours de sa vie, celle de Christopher Morcom, un jeune homme aussi féru de mathématiques et de sciences que lui. Ce qu'Alan ressent pour Christopher est bien plus qu'une simple amitié de collégien. Non, bien plus que de l'amitié, c'est un sentiment d'une puissance qu'il n'a encore jamais ressenti pour quiconque. Et qu'il n'ose avouer à personne. Encore moins si ce sentiment est dirigé vers un autre garçon. C'est là qu'il prend conscience de son homosexualité. Mais tout ceci doit rester secret. Il est déjà le souffre-douleur des autres pensionnaires. Toujours les mains sales, il semble sortir de son lit à toute heure de la journée. Il est une proie idéale pour les futurs gentlemen éduqués à la Sherborne Grammar School qui prennent un malin plaisir à le rosser, à l'humilier. La vie se chargera de sceller le sort de ce premier amour. Christopher meurt à 19 ans de la tuberculose bovine. Alan en a 18. Cet amour pour Christopher, qui restera platonique, déterminera pourtant le reste de sa vie. Cette disparition le poussera vers les mathématiques avec une ferveur et un génie qui ne sera qu'une façon d'accomplir le destin de Christopher, celui qu'il a toujours aimé. Alors ce soir de l'été 1942, quand il regarde ses bombes à l'œuvre dans la chaleur des hangars de Bletchley Park, Alan sait que toutes ces machines ne sont qu'une tentative de répondre à la question qu'il a toujours hantée. Les machines peuvent-elles penser ? Oui. C'est possible. Alan est convaincu que l'intelligence humaine n'est qu'une suite de connexions algorithmiques. La nature peut s'expliquer de façon mathématique. Ces bombes n'en sont que la preuve. Archaïque, certes, mais il sait que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Et ce bien plus grand, il va l'expliquer des années plus tard dans un article de 1950 qu'il appelle « L'ordinateur et l'intelligence ». Il pose les bases de ce qui n'est autre que l'intelligence artificielle. Il ne formule pas la question en se demandant si les machines peuvent penser comme l'homme, non. Il formule la question comme ceci. Les machines peuvent-elles imiter l'homme ? Il propose même un test appelé « test de Turing » pour pouvoir déterminer si une machine est consciente ou pas à travers sa faculté à tenir une conversation avec un humain. Il fait même le pari que, d'ici 50 ans, il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un homme ou un ordinateur. Tiens. Cela nous rappellerait-il pas les prouesses de ChatGPT, une forme d'intelligence artificielle capable d'apprendre et de restituer des quantités de données phénoménales ? L'univers de Turing est peuplé d'inventions toutes plus révolutionnaires et audacieuses les unes que les autres. Mais la réalité d'un homosexuel dans les années 1950 au Royaume-Uni l'est beaucoup moins. On serait plutôt dans le phénomène inverse. En 1952, la police est appelée pour un cambriolage ayant eu lieu au domicile d'un certain Alan Matheson Turing, à Winslow. En menant son enquête, la police ne tarde pas à découvrir que le cambrioleur n'est autre que le complice d'un amant occasionnel de Turing. L'amant de Turing, un certain Arnold Murray, de 20 ans son cadet, a donné les informations au cambrioleur pour entrer par effraction chez le mathématicien. Le cambrioleur, l'amant et, finalement, Alan Turing avoue. Et voilà que le mathématicien, après avoir été cambriolé, se retrouve inculpé d'indécence manifeste et de perversion sexuelle. Turing plaide coupable. car il trouve tout cela ridicule et injustifié. Mais le procès devient médiatique. Des collègues scientifiques viennent plaider la cause de Turing. En vain. Et ce qui aurait pu faire pencher la balance ne peut pas être divulgué au cours du procès. Personne. Personne ne sait qu'Alan Turing est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Son passé, au nom de code ULTRA, ne peut pas être divulgué, sous peine de se voir condamné pour haute trahison cette fois. Même sa nomination en 1951 en tant que membre de la Royal Society, où l'on retrouve entre autres Isaac Newton, n'y fera rien. Alan Turing est condamné et se voit offrir un choix pour le moins barbare, soit 2 ans de prison, soit la castration chimique pendant 1 an. Appelé à la barre, le mathématicien déclare préférer la castration chimique, car, dit-il, j'ai trop de travail pour perdre mon temps en prison. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de mon corps. Mon logiciel restera intact, pense Alan. C'est pas si sûr. Les œstrogènes dérèglent bien son corps. Il grossit énormément, des seins lui poussent, il perd toute libido. Et puis c'est pas tout. Les hormones dérèglent aussi son humeur. La mélancolie, mais aussi la solitude, s'emparent de lui. Il est écarté de tous les grands projets scientifiques auxquels il contribuait. Il vit reclus chez lui. Joanne, la fidèle Joanne, continue de venir lui rendre visite. Elle est à présent mariée avec un lieutenant-colonel. Elle s'inquiète de voir l'état de celui à qui le Royaume-Uni devrait plutôt rendre les honneurs, se consumer sous les feux de l'humiliation publique. Et même si cette punition barbare ne dure qu'une année, le mal est fait. Pourtant, le logiciel interne du mathématicien, qui approche la quarantaine, continue de tourner. Tic-tac, tic-tac. Cette humiliation publique qu'il lit sur son corps suscite à présent sa curiosité. Elle lui fait reprendre l'étude qui le fascine depuis toujours. La morphogénèse. Entendez ? La régularité mathématique de l'organisation des formes dans la nature. Celle qu'on retrouve dans les plantes, par exemple. Et qui répond à une organisation mathématique précise. Alan Turing entend ainsi percer le mystère de la matière, car il n'existe pas de déterminisme dans la nature. La nature est pleine d'aléas imprévisibles, mais par une démonstration faite d'une série d'équations différentielles très complexes, il pose les bases de la génétique moderne dans l'approche de ces évolutions non déterminées. Une limite mathématique qui n'a jamais été franchie jusqu'à présent. De cette façon, Alan repousse encore plus loin le mystère de la création. Existe-t-il une forme de logiciel autonome, sans le moindre déterminisme ? Est-ce que Alan Turing aurait pu dépasser les limites de la calculabilité qu'il avait posées dès 1936 dans son article « Uncomputable Numbers » ? Aurait-il pu atteindre la source de l'existence ? Comprendre si un logiciel informatique est à l'origine de la création ? Nous ne le saurons jamais. À 41 ans, après 4 années d'humiliation, le père de l'ordinateur moderne et de l'intelligence artificielle s'allonge sur son lit un après-midi de juin 1954 et, après avoir longuement considéré la pomme qu'il tient entre les mains, il se résout à croquer dedans. Il la pose ensuite sur sa table de chevet et ferme les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Selon l'examen du corps d'Alan Turing, la pomme devait être enduite du cyanure dont il se servait pour réaliser ses expériences dans le laboratoire qu'il avait installé chez lui. Certains diront qu'il ne s'est pas suicidé, que l'ingestion était accidentelle. Certaines zones d'ombre ne sont pas toujours évidentes à cerner. Alan Turing tomba dans les oubliettes de l'histoire. Les ordinateurs atteignirent des puissances de calcul phénoménales. Et ce qu'il avait prophétisé devint le quotidien de l'humanité tout entière. L'ordinateur restait pourtant orphelin. La communauté scientifique, elle, ne l'avait pas oublié. Dans les années 2000, un comité réunissant les plus grands noms de la science, comme Stephen Hawking, a finalement réussi à réhabiliter Alan Turing. Celui qu'il considère comme le mathématicien le plus brillant de l'époque moderne. En 2009, Gordon Brown, le premier ministre de l'époque, avait déjà présenté les excuses posthumes du gouvernement britannique, reconnaissant qu'Alan Turing avait été traité horriblement. Et finalement, en 2013, la veille de Noël, la reine Elisabeth II, poussée par son ministre de la Justice, annule sa condamnation pour indécence grave et turpitude morale. Il y a bien sûr les pardons officiels. Mais l'important n'est-il pas ailleurs? N'est-il pas dans nos ordinateurs, là où l'esprit d'Alan Turing vit toujours? Pour vous en convaincre, il vous suffit de consulter son compte Twitter, créé à titre posthume, pour découvrir l'épitaphe en dessous de sa photo. Il y est écrit ceci, sans fausse modestie. C'est grâce à moi que vous pouvez lire ceci. Voilà pour ce récit fascinant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Dominique Reding.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.